réseau Cogeco. Voici les week-ends de Paul Oud.
Alors, nous voilà de retour pour notre dernière heure et on a devant nous, Thérèse, un ouvrage que moi j'ai dévoré déjà sur quelqu'un que nous aimons tellement, vous et moi. On l'a eu en studio à plusieurs reprises. On a passé même plusieurs heures en sa compagnie.
Absolument.
On a eu l'occasion, vous et moi, de le rencontrer personnellement dans d'autres circonstances et pour se mettre dans l'ambiance et le titre du livre, écoutons ceci.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Une de mes chansons préférées de Charles Aznavour. Tellement québécois et pourtant arrivé dans des circonstances un peu aléatoires. Il venait simplement, très jeune, chanteur, pas reconnu par ses pairs en France. On boudait ce nouveau gamin qui s'amenait tout petit. On l'appelait le petit Charles en dérision. Et Charles Aznavour débarque au Québec et il obtient un succès formidable alors qu'il ne venait que présenter quelques spectacles. La suite, on la connaît, Charles Aznavour, oui, on l'a dit, est devenu, et Thérèse, vous allez être d'accord avec moi, véritablement un chanteur québécois. Enfin, ouais. il nous le disait lorsqu'on le recevait ici.
Ouais.
Quel bon souvenir.
Il avait un rapport particulier avec le Québec.
Il adorait le Québec. Et puis, évidemment, on ne parlera pas de ce qu'on appelle, et je trouve ça un peu vulgaire lorsqu'on dit le catalogue, c'est quand même pas le catalogue Eaton, mais son répertoire de chansons est absolument phénoménal. Mario Girard, que vous connaissez bien, journaliste à la presse, lui aussi a décidé de parler de Charles Aznavour. Il se voyait déjà, Aznavour et le Québec. Mario Girard, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et j'imagine qu'on n'écrit pas un ouvrage sur Charles Aznavour sans l'aimer comme nous l'aimions.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'abord ce que je recherche avant de me lancer dans un projet. J'ai eu le même sentiment quand j'ai fait la biographie de René Claude il y a 2 ans. Il faut aimer son sujet, il faut aimer la personne, il faut aimer aussi ce qui l'entoure. Et dans le cas d'Aznavour, en fait, moi, ce qui me fascinait, c'était de plonger dans les années 40 et 50 à Montréal, à l'époque des cabarets et de la mafia et l'histoire du faisan doré. Alors, c'est ça qui m'a vraiment donné le goût de me lancer là-dedans.
Et cet ouvrage, il est illustré de très belle façon parce qu'on voit Aznavour ici au Québec. Vous avez parlé du faisan doré. Il y a des noms qui, pour nos plus vieux auditeurs, va sonner ce matin. Pierre Roche, qui était son accompagnateur, son pianiste, qui était donc son indéfectible pianiste sur scène pendant plusieurs années.
Et un ami.
Et un ami, évidemment.
Oui, un très, très grand ami. D'ailleurs, quand ils vont se séparer, là, sur le plan professionnel, ça serait une grande douleur pour Pierre Roche. Mais bon, il va s'en remettre et puis ils vont reprendre leur amitié. Parce que Pierre Roche, lui, il est resté au Québec, alors que Aznavour, après donc ce long séjour, est retourné en France. Et alors, vous le disiez, c'est ça, ils arrivent ici par accident, en fait, parce que eux, ils allaient rejoindre Edith Piaf à New York en septembre 48. Et elle est très amoureuse de Marcel Cerdan, qui doit disputer un match légendaire qu'il avait gagné, d'ailleurs. Et alors, elle ne veut pas les avoir dans les pattes et elle va se débarrasser d'eux en leur trouvant un engagement dans un cabaret de Montréal qui s'appelle le Quartier Latin. Et c'est comme ça qu'ils vont venir ici. Et là, de fil en aiguille, ils vont se retrouver au Faisan Doré, invités par Jacques Normand. Et là, ce sera la folie furieuse. Ils vont vraiment casser la baraque. Et ce sera donc un coup de foudre pour lui. Et cette histoire d'amour-là va rester jusqu'à sa mort, en fait.
Moi, je vais vous dire, en lisant votre livre, c'est drôle parce que il y a plein d'anecdotes, d'abord, que je ne que je ne connaissais pas ou que dont j'avais jamais entendu parler. Tu sais, je pense à Aznavour qui dépanne Jacques Normand à un moment donné, que Jacques Normand est parti à l'étranger, puis il se retrouve sans argent. Puis là, ben évidemment, il appelle Roger Beaulieu puis Charles Aznavour, puis le lendemain, ben tu sais, à un moment donné, il reçoit de l'aide. Toute cette histoire de prison d'Aznavour et Roche alors qu'ils allaient voir Piaf à New York, puis qu'ils se sont retrouvés en prison. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça, vraiment.
Ah oui, non, tout à fait. En fait, ils étaient un peu insouciants. Alors, eux, ils se sont embarqués, ils ont pris l'avion d'Amsterdam pour Montréal, sauf qu'ils n'avaient pas pensé à prendre un visa. Alors, rendus à New York, on leur a demandé, ben, avez-vous vos passeports? Oui, présentez votre passeport. Avez-vous votre visa? Ils disaient, ben, non. Alors, ils les ont mis en prison pendant quelques jours. Et encore là, c'est Piaf qui, à ce moment-là, était à Montréal. Elle chantait au Monument National, qui est intervenu à distance et qui les a sortis du pétrin. Mais moi, mon anecdote préférée, je reviens sur le Faisan Doré, bon, qui était, il faut le dire, un endroit géré par, comme dit Aznavour, c'était pas des enfants de cœur. le patron qui a caché, en fait, non officiel, c'était quand même Franck Cotroni.
Aznavour disait...
Mon préféré, c'est Raymond Lévesque, qui était boss boy
oui.
à ce moment-là.
Oui!
Hey, c'est incroyable.
Alors, oui. Un soir, Jacques Normand décide de faire éteindre toutes les lumières dans la salle pour un numéro. Et là, il y a eu plein de gars qui ont sorti leur revolver
dans la salle.
qui était autour de Cotroni. Ça a été la dernière fois que Jacques Normand a fait ce numéro-là.
Ben oui. Ça, écoute, j'ai tellement ri quand j'ai lu ça parce que, effectivement, puis c'est Raymond Lévesque qui avait raconté cette anecdote-là parce qu'il était boss boy. Puis, effectivement, Jacques Normand avait fait cette demande-là. Il y a vraiment plein, je pense à, bon, je reviens là, de mémoire, là, il y a plein d'anecdotes. Écoute, je pourrais y revenir 100 fois, mais Dominique Michel, qui à un moment donné racontait qu'elle se faisait toujours voler, elle disait, pour vous donner une idée de qui dirigeait ces cabarets-là, elle sortait toujours, puis elle se faisait voler ses enjoliveurs de voiture. Puis
oui.
À un moment donné, elle est allée voir le grand patron, puis elle dit, là, si je me fais encore voler des enjoliveurs de voiture, je viens plus chanter. Puis le lendemain, c'est-à-dire une heure après, les enjoliveurs étaient revenus sur la voiture.
Oui, parce que le personnel, en fait, ceux qui étaient serveurs et barman, c'était aussi des gens qui étaient mêlés à la mafia. Là. Alors donc tous ces gens-là étaient interreliés et les liens aussi avec la police. On me racontait parce qu'au-dessus du Faisan Doré, il y avait aussi un bordel et il y avait une salle de jeu. Alors quand la police débarquait, il y avait un système qui permettait de clignoter les lumières et là on faisait descendre les clients et les filles par un escalier en colimaçon qui est toujours là, qui existe toujours. Je suis allé le voir au cours des derniers mois. Je suis allé visiter deux fois dans cet endroit-là, l'ancien Faisan Doré.
C'est évidemment une période absolument en or pour la culture française et québécoise parce que il y avait évidemment des artistes de chez nous comme Félix, qui était bien connu en France. Mais ce pont international, il a été favorisé par Charles Aznavour, Mario Girard.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et ils vont jouer, tous les deux, Pierre Roche et Aznavour, vont jouer un rôle très important à ce moment-là, parce que les cabarets là, qu'on décrit, dont on parle, alors c'était beaucoup, ça se passait beaucoup en anglais. On achetait des numéros de magiciens et de dresseurs de chiens, et il y avait le fameux numéro du MC qui faisait des jokes en anglais. C'était tout ça, c'est, puis même quand le MC était francophone, ça se passait en anglais. Et eux, ils arrivent donc au Faisan Doré avec leur numéro, et ça se passe en français. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont un si grand succès. Et là, ça va attirer des gens comme Monique Lérac et plein d'autres par la suite. Aglaé, qui va devenir la femme de Pierre Roche. Donc, c'est un peu, en fait, le Faisan Doré et cette période-là, c'est un peu la période qui précède les fameuses boîtes à chansons qui vont arriver à la fin des années 50 ou au début des années 60, finalement.
Mais il y a aussi une anecdote que vous racontez un peu plus loin dans le livre. Là, je la cite de mémoire, mais quand, à un moment donné, il est venu ici à Aznavour, moi, je me souviens, il est venu en studio, Mario, il est venu nous voir, puis à un moment donné, il venait de télécharger Twitter sur son téléphone.
Ouais, c'était drôle, ça.
Et c'était relativement nouveau, puis j'y avais dit, ben garde, c'est pas compliqué, vous pouvez tweeter, on avait fait un tweet ensemble. Et je me souviens que quand il était arrivé, puis qu'il avait mis son téléphone à côté, J'avais dit, écoute, il avait le dernier modèle de téléphone, puis vous l'évoquez dans ce livre-là, cette technologie de cet homme de 89 ans qui était passionné de technologie, puis qui voulait pas en rater une.
Écoute, ben c'est parce que tout le monde me parlait de ça. En fait, il avait deux passions, il avait deux dadas quand il venait à Montréal. C'était d'acheter des valises. Il paraît qu'il arrivait avec une valise, puis il repartait avec 8 valises. Et les gadgets électroniques. Alors, il achetait toujours le dernier modèle d'appareil photo, de ciné-caméra, de ciné-vidéo, et les téléphones. Et c'est Junior Bombardier, en fait, qui me racontait, il s'est occupé de lui au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et Junior, donc, qui est dans la trentaine. Et à ce moment-là, donc, Azarou, il y a 80, 85, bien entamé. Alors, donc, Junior vient de s'acheter un nouveau iPhone, puis il ne sait pas trop comment ça fonctionne. Puis Aznavour était dans la voiture, et puis il a pris le téléphone, puis il a tout expliqué. Il dit, ça, tu fais ça, ça, c'est telle fonction. Donc, c'était vraiment une passion. Et pour lui, je pense que ça le gardait en vie, ça le gardait en contact. C'était important d'être avec les jeunes, d'être avec les ouverts sur les technologies. Et c'est pour ça, en fait, je pense que sa carrière a duré aussi longtemps.
Et d'un naturel désarmant, un homme humble, chaleureux. Je vais vous raconter rapidement, Mario, l'expérience que Thérèse Dubon a vécue. On le recevait pendant une heure à l'époque que nous étions la semaine, l'après-midi. Il arrive, comme vous dites, avec un tout dernier modèle d'appareil photo numérique. Un Leica, ça coûte cher, hein? Une bonne caméra et tout ça. On le rencontre, on lui demande comment il va, il a 85 ans à peu près, et il s'amuse à tout photographier. Notre studio, notre corridor, et il nous demande, Thérèse et moi, de se coller, c'était avant la pandémie, pour qu'il puisse prendre une photo de nous. Mais là, on nous dit, mais monsieur Aznavour, monsieur Charles,
on peut avoir une photo avec vous?
Est-ce qu'on peut avoir une photo avec vous? Ça n'a aucun intérêt que vous repartiez avec une photo de Paul Oud et Thérèse Parisien. Non, c'est mon nouvel appareil photo, je l'adore. Et quel homme chaleureux. C'est ça qu'on a gardé comme souvenir.
Mais ça ne m'étonne pas du tout d'entendre ça, parce que je l'ai beaucoup entendu, parce que je demandais à ses amis français, à son fils Micha, que j'ai interviewé, pourquoi il avait cette relation avec le Québec. Et son fils me disait, tu sais, mon père, c'était pas quelqu'un qui se prenait au sérieux, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête, c'est quelqu'un qui aimait s'amuser et rire. Et au Québec, il pouvait être comme ça et vivre ça.
Ouais.
Il aimait beaucoup la simplicité. Et alors, c'est pour ça qu'il a développé des amitiés avec des gens comme Robert Charlebois, parce que son fils me disait, tu sais, il pourrait être ami avec Jacques Normand et puis Robert Charlebois et John Hallyday. Il faut quand même être un sacré fêtard. Hein? Et il était aussi ça, malgré son apparence, malgré son look, il avait ce côté-là.
Et il nous a dit, en terminant, une autre anecdote qui témoigne, parce que vous l'avez... Le livre regorge de ce témoignage d'amour de Charles Aznavour envers le Québec. C'est qu'il nous disait « Ce que j'aimais bien dans le temps, c'était d'aller prendre un petit smoke meat chez Ben. » Après un spectacle. Vous voyez, il était très attaché à tout ça. Il allait en spectacle à la Place des Arts. Il finissait ça très tard avec un petit smoke meat.
Oui, puis quand il était avec un ami français, alors le test ultime, là, ouais. Il l'amenait au Montreal Ballroom pour un dog et des frites, et là, il était fier de ça, parce que c'était son Montréal, et en fait, le fameux faisant doré est à un jet de pierre du Montreal Ballroom. Alors ça, il aimait beaucoup faire ça aussi.
Alors, félicitations, Mario Girard. C'est un bel ouvrage. Ça se lit tellement bien. Une belle époque de Montréal. Une époque insouciante. Ouais. Et Dieu sait qu'elle a changé cette époque.
Plein d'anecdotes et de gens qu'on connaît, évidemment, qui l'ont côtoyé.
La vie était tellement simple.
À Lynn Delemay, à plein d'autres. Robert Charlebois, puis, écoute.
Et donnons le titre de l'ouvrage, quand même, qui paraît aux éditions de la presse. Il se voyait déjà. Aznavour et le Québec. Mario Girard, merci.
Un grand merci à vous deux et bon samedi.
Au revoir, Mario. C'est vrai que c'est bon. Et les photos là-dedans.
Oh, il y a une photo.
Avec Diane Dufresne. Avec
Robert Charlebois. Toi aussi, t'as accroché sur la photo avec Diane Dufresne. Oui. C'est une rareté parce qu'ils se tiennent les mains, les deux. C'est vraiment bien.
Nous voici à 10h19. Hey, Thérèse, vous allez être obligée de parler de ça à C'est juste de la TV vendredi prochain. Émission spéciale, mesdames, messieurs, la télévision sur. Bon, on est très heureux parce que c'est une nouvelle quand même qui était attendue depuis longtemps. Les deux Canadiens, les deux Michael, Kovrig et Spavor ont été finalement libérés après 1000 jours de détention arbitraire en Chine. Oui. Ils sont arrivés à Vancouver. Mais là, Mme Meng Wanzhou, qui est un peu, elle aussi, quand je disais, impliquée dans cette histoire avec la Chine, un cadre supérieur de l'entreprise Huawei, est retourné en Chine à peu près au même moment. On voit que tout ça est bien coordonné, c'est politique, il y a un message derrière ça. Mais là, Radio-Canada est en émission spéciale sur l'arrivée de Meng Wanzhou en Chine.
En Chine, en plus. Écoute, alors, oui, puis ça fait longtemps qu'on parle de ces deux Québécois qui sont retenus, qui sont évidemment détenus là-bas. Je veux simplement vous suggérer une lecture dans la presse. Yves Boisvert, aujourd'hui, qui écrit un article, qui écrit sa chronique « La Chine est un pays dangereux ». Et vous allez, il explique, c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte. Puis il dit à un moment donné que dans cette histoire-là, le Canada a été une victime collatérale de bonne foi qui jouait selon les règles d'une justice public. Le Canada était le maillon faible de la chaîne sur laquelle la Chine a exercé une pression économique, politique et pénitentiaire. Mais allez lire le texte d'Yves Boisvert dans la presse. La Chine est un pays dangereux.
Et tout ça a été organisé. Je vous dis, c'est une affaire organisée. Des images en direct de Shenzhen en Chine où on voit Mme Meng qui débarque. Et c'est comme vraiment là, comme si c'était un événement international qu'il faut couvrir dans une émission spéciale. Il y a peut-être quelque chose derrière ça et nous allons poser la question à Loïc Tassé. Où se trouve la logique derrière ça? C'est entièrement politique comme dossier, mais comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Des pressions.
Oui, tout à fait.
Exercées par...
Une inquiétude à y avoir, clairement.
Alors, demain, Loïc Tassé sera avec nous.